cours de philosophie de la nature par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jeaudard le 6 octobre 1995.
On a inversé inconsciemment le cours de critique et le cours de philosophie. Peut-être pour que vous ayez une intelligence plus claire ce matin, qu'elle était encore obscure hier, je vais aller la purifier. Pourquoi dites-vous que les pères de l'Église sont néoplatoniciens? C'est un fait. J'en peux rien. Le néoplatonisme, vous voyez, avec Plotin, qui est quelque chose de très beau, il faut lire de temps en temps une Énéade de Plotin. Ça se lit très facilement. C'est difficile, si on creuse. Il y a un très beau sujet, c'est voir la critique de Plotin par rapport aux catégories d'Aristote. Ça, c'est un sujet extrêmement intéressant. C'est toujours intéressant, vous savez bien, quand on regarde un philosophe, de voir ce qu'il nie. Parce que c'est là où on voit le plus ce qu'il est, par la négation, au point du critique. Là, c'est très vrai. Et on voit la manière dont un philosophe interprète un autre philosophe. Donc, Platon fait une grosse critique des catégories d'Aristote. Alors, cela les a-t-il empêchés d'atteindre le Dieu qui est le Père, Fils, Saint-Esprit? Pas du tout, parce qu'ils étaient des croyants. Ce n'est pas le néoplatonisme qui fait atteindre la très sainte Trinité, c'est ma foi. Et les pères de l'Église avaient une foi merveilleuse. Et leur foi était telle qu'ils corrigeaient par leur foi le néoplatonisme. Ils réalisent par la foi. Rien n'est plus réaliste que ma foi. Puisque ça me donne ce contact direct avec Dieu. Dis-moi qui tu es, qui tu fréquentes, et je te dirai qui tu es. Si par la foi vous fréquentez Dieu, vous avez un réalisme merveilleux, celui de Dieu. Et la foi nous donne ça. C'est pour ça qu'il ne faut jamais oublier. Nous faisons de la philosophie, mais nous sommes chrétiens. Et c'est une manière pour nous, quelquefois. Je ne peux pas faire un cours de cette manière-là. Mais on peut très bien comprendre, dans une lumière de foi, si Dieu est créateur de mon intelligence, nécessairement mon intelligence est faite pour ce que Dieu a créé. Donc le réalisme de l'intelligence, je peux le comprendre directement par la foi. Et que si je suis idéaliste et néoplatonicien, il y a quelque chose de gênant pour la foi. Mais si j'ai une foi très grande, je comprends que le néoplatonisme est vrai pour tout ce qui est au-dessus de la matière. C'est très curieux. Le néoplatonisme a une espèce de vision de sagesse qu'on peut facilement assumer par la foi. Vous voyez, il y a le néoplatonisme et le stoïcisme. Le stoïcisme, c'est au point de vue moral, et le néoplatonisme, c'est au niveau spéculatif. C'est ça qu'on voit chez les pères de l'Église. Parce que le stoïcisme était la philosophie pratique qu'on enseignait à Rome à cette époque. Épictète. Et deux auteurs très proches du christianisme, Épictète, Plotin. Et ça, c'est très vrai que c'est à l'égard du stoïcisme d'Épictète que, de fait, les pères de l'Église ont beaucoup puisé. Et à l'égard du néoplatonisme. Saint Augustin est platonisant. Il dit que c'est Platon qui l'a permis de sortir du manichéisme. D'une certaine manière, c'est Platon qui lui a donné le sens du spirituel. Et il est resté toute sa vie un peu platonisant. C'est pas gênant, parce qu'il est c'est pas gênant. C'est l'art de l'expression. Il aurait été plus loin, plus précis. Il aurait mieux quitté son genre rhétorique. C'est un très grand rhéteur, Saint-Augustin. Un excellent avocat. Un merveilleux avocat. Vous voyez, ça prépare à tout d'être avocat. Puisque Dieu s'est servi de Saint-Augustin. Et les Cappadociens sont aussi des platoniciens. Il n'y a que très peu de pères de l'Église. Maxime le Confesseur, Thomas d'Aquin, qui n'est pas père de l'Église. Et Maxime le Confesseur, qui est celui qui, pour l'Orient, a touché Aristote. Pas de la même façon que Thomas d'Aquin. Il n'a pas fait des commentaires, mais il le réalise. Autre question, vous avez dit qu'il faut connaître la nature matière à partir du mouvement et des qualités, car toute réalité physique est nue, à l'exemple de l'érosion sur une pierre. Mais si cette réalité passe d'une qualité à une autre par le seul fait du mouvement, c'est vrai, on passe d'une qualité à une autre et la quantité elle-même est touchée quand il s'agit par exemple de l'érosion. Qui lui est extrinsèque. Est-il pas de même pour l'œuvre d'art? C'est sûr, il y a une analogie entre les deux. C'est pour ça que je peux me servir de l'art pour comprendre la nature. Et je peux me servir de la nature pour comprendre l'art. Il y a un point où la connaissance artistique l'emporte sur l'art. Et il y a un point sur la connaissance de la nature l'emporte sur l'art. Mais il faut arriver à bien voir ces deux aspects. C'est pour ça que Dante dit que l'œuvre d'art est petite fille de Dieu. La nature est une drôle de fille de Dieu, mais elle est une fille de Dieu. Tout ce que vous voyez dans la nature, hein, qui n'a pas été touché par la main de l'homme, il n'y a pas plus beaucoup, il faut s'élever très haut. Pour voir une nature qui reste pure, limpide, le désert. Ça ne fait parler de Dieu. C'est ce que Nietzsche dit très bien. Quand je suis dans la ville, je pense à l'homme. Quand je suis au désert, je pense à Dieu. C'est plus fort que lui. Parce que Nietzsche était-il vraiment athée ou était-il un mystique qui cherchait vers au ciel? C'est pas possible. Parce qu'il y a chez lui une âme de mystique. Alors, vous voyez, donc, il y a des similitudes énormes entre les deux. Nous ne pouvons plus distinguer par le mouvement la forme artistique d'une forme naturelle, puisque la nature, matière, est mue à la façon des deux cas. Pourquoi ne puis-je pas renverser votre argumentation? Je peux, par le mouvement artistique, distinguer qu'avant le mouvement artistique, il y a une réalité qui est mue, la matière. Je vous ai dit, en grec, oulé veut dire bois et veut dire matière. Le mouvement artistique me fait découvrir le bois. Le mouvement naturel me fait découvrir la matière. Tiens, tiens, curieux. Donc des deux côtés, je découvre quelque chose d'antérieur au mouvement. C'est ça la matière. Que vous le découvriez par l'art ou que vous le découvriez par l'expérience naturelle, les deux conduisent à ça. Et c'est ça qui m'intéresse. Un artiste travaille sur une matière antérieure à son art. Il ne fait pas une œuvre à partir de rien. Il a toujours une matière première. Et quand il y a des fautes dans son œuvre, il dira « Ah, c'est à cause de la matière !» Vous savez bien, quand il y a eu des... Quand il y a des failles comme ça dans une œuvre artistique, le barrage de Fréjus qui avait beaucoup parlé à ce moment, c'était un barrage. Il y a eu une sorte d'éclatement. Alors, est-ce que c'était un défaut technique ou la matière qu'on connaissait mal, à cause des chaleurs, quand on a commencé à mettre des portes vitrées, on se servait d'armes du verre. Il y a justement un été très chaud. Là, il y a eu des phénomènes qu'on n'avait pas prévus. Parce que la chaleur modifie la matière, modifie le verre. Ça, c'est sûr. Il y a la porte là-bas, hein. Elle grince maintenant. Et pourtant, quand on l'a mis, elle ne grinçait pas. Question de froid, question de chaleur. Les choses se modifient. Il n'y a qu'à réfléchir là-dessus. Vous voyez bien, il y a un effet. Alors, si je voulais y répondre jusqu'au bout, là, je renverse l'argument. Et puis simplement, si au moins ça m'est égal ce que vous dites. Ça prouve la même chose. Que ce soit le robinet qui coule, hein, c'est quand même toujours de l'eau. Même si la technique a fait une déviation remarquable au torrent. Je me souviens, le Valais, où il y avait des chutes d'eau admirables. Puis maintenant on a canalisé ça, alors on voit des tuyaux. Comme chute d'eau, c'est remarquable. Et c'est vrai, c'est pas plus au Valais que c'est partout comme ça. Les barrages, c'est l'art qui vient dévier la nature. Tu ne passeras plus là, je t'interdis, allez. Et puis on servira de ces bassins pour des forces électriques, et ainsi de suite. C'est très vrai que l'art intervient tout le temps. Et quand vous prenez le robinet, c'est quand même de l'eau. Et si ce phénomène d'érosion existe aussi avec le robinet, ça m'importe peu si c'est la causalité efficiente qui a changé. Si entre deux, vous avez servi d'une canalisation, c'est toujours de l'eau. Et vous voyez que, de fait, aussi bien l'activité artistique que l'activité naturelle implique un mouvement. L'activité artistique implique un travail. Et un travail, c'est un devenir, c'est un mouvement. Donc, c'est le mouvement. Que ce soit le mouvement artistique, que ce soit le mouvement naturel, les deux me conduisent à découvrir que, au-delà du mouvement, il y a un sujet à ce mouvement. Il y a quelque chose qui est capable d'être changé. C'est la définition de la matière chez le marxiste. Ce qui est capable de transformer. Tout ce qui est capable d'être transformé est matière. Le langage peut être transformé par l'art poétique. Quand Claudel se sert du langage français, il s'en sert comme un poète. Alors ça devient un clairon. Tandis qu'au contraire, le langage, lorsqu'il s'agit du langage chez la marchande, c'est pas très poétique. Regardez le langage des marchands. Et puis, regardez le langage de l'aide, du troubadour, il chante. Et le langage prend une autre tonalité. C'est la matière, c'est le langage. Tout ce qui est capable d'être changé. Là, vous avez des matières. Surtout aujourd'hui, on a des matières artificielles. Mais c'est encore une matière, mais c'est une matière artificielle. Alors, c'est plus la vraie matière. La matière artificielle provient d'une matière naturelle. Cette matière naturelle est changée par l'art. L'activité artistique, elle est changée par la nature. Non. Si je voulais pousser l'analyse, je dirais que le véritable mouvement naturel, c'est celui qui provient de la nature elle-même. C'est-à-dire, fondamentalement, que l'eau qui vient de la source dégringole. C'est pas artificiel, c'est naturel. Une chute d'eau en montagne, c'est naturel. Et cette chute d'eau travaille. L'érosion travaille la matière sur laquelle elle tombe. Qu'à la place de cette chute d'eau, vous mettez une turbine pour attaquer plus violemment, ce sera toujours la matière. Ça ne change pas. Mais la causalité efficiente qui travaille est plus ou moins efficace. Et l'art vient aider la nature pour une efficacité plus grande. L'art, c'est simplement ça. modifier la nature pour une beauté, pour une efficacité plus grande, mais ça ne change rien. Quelquefois, la vitesse croit que ça change, mais ça ne change pas. C'est toujours une matière qu'on travaille. Donc, nous ne pouvons plus distinguer par le mouvement la forme artistique d'une forme naturelle. Ça n'a pas d'importance. C'est pas la forme que je cherche, c'est la matière. C'est ça que je cherche, la nature-matière. Et la nature-matière, vous la découvrez par l'activité artistique. Un charpentier découvre ce que c'est que la matière, le bois. Un menuisier découvre le bois. Il découvre que ce bois est plein de nœuds, ou au contraire que ce bois est lisse, et puis ça s'enfonce comme dans du beurre. Tandis qu'il y a des bois durs qui résistent. Et c'est toujours le même phénomène. Quelque chose qui est antérieur au mouvement. À tout mouvement. Mouvement artistique, mouvement naturel. C'est ça la matière. C'est ce qui est présupposé au mouvement. Et donc, ce qui permet au mouvement d'exister. S'il n'y avait pas de matière, il n'y aurait pas de mouvement. C'est donc ce qui permet au mouvement d'exister. Puisque c'est une capacité d'être transformé. Et c'est transformé ou par le mouvement artistique ou par le mouvement naturel. Peu importe. C'est toujours la matière. Ça, c'est la première découverte. Et là, cette découverte, elle se fait par l'art, elle se fait par la nature. Et un lieu, une forêt vierge. Prenez l'expérience de la forêt vierge. Puisque parmi vous, il y en a sûrement qui ont l'expérience de la forêt vierge. C'est une expérience très curieuse et très, très intéressante. De voir la force de la forêt vierge. C'est extraordinaire. Vous passez, vous coupez tout ce qu'il faut couper, et vous revenez quelques années après, plus rien. Tout repousse. C'est la vengeance de la matière vivante contre l'action brutale. L'artiste, on coupe, c'est brutal, par rapport à la nature. Prenez l'expérience du désert, le sable, c'est extraordinaire comme puissance. Prenez la puissance de l'océan, sur la côte sauvage, hein, bretonne, où il y a une espèce de furie de la mer sur la résistance des côtes. Et vous voyez ça aussi en Grèce. Une côte déchiquetée. L'expérience du mouvement me conduit à découvrir la matière. Je n'ai pas l'expérience directe de la matière. J'ai l'expérience du mouvement. Le mouvement, c'est un sensible commun. Et je distingue tout de suite les sensibles communs des sensibles propres. Parmi les sensibles communs, ça c'est une distinction capitale qu'Aristote a faite et que Descartes a supprimée. Alors que c'est si important de distinguer les sensibles propres, c'est ce que chaque sens saisit uniquement. La lumière, la couleur, le son, l'odeur. Il y a un sens pour, il y a une qualité pour chaque sens. C'est pour ça qu'il y en a cinq. Il y a cinq sens parce que vous découvrez cinq qualités particulières. Et puis, il y a des sensibles que vous découvrez avec les divers sens. Le mouvement, vous le découvrez par la vue. Un avion qui bouge. Vous ne le touchez pas. Vous le voyez seulement. Vous le découvrez par l'oreille. Quand vous êtes, ça rompt dans sa bouche. Tous les effets du cinéma, c'est ça. Adam qui entend les pas de Dieu dans le désert. Dans l'horizon, vous devez entendre les pas de Dieu qui viennent vers vous. Faites attention à votre imagination. On entend le mouvement. On le voit. On le touche. Vous avez déjà touché une roue qui tourne à toute vitesse. Hein, vous baillez tout de suite parce que votre peau, immédiatement, en 2 minutes, ce serait déraplé. Vous touchez le mouvement. Vous pouvez goûter le mouvement. Vous mettez un gros bonbon dans votre bouche. Et vous le tournez. Et l'expérience du mouvement. C'est curieux. Tous les sens, tout je me vois, c'est très étonnant. Ça fait comprendre combien le mouvement est quelque chose qui nous saisit, qui nous prend sensible commun. Alors il y a certains mouvements que vous voyez mieux par la vue, d'autres mouvements que vous voyez mieux par le toucher. Le toucher est en contact très particulier avec le mouvement. Et les soucoupes volantes, à un moment on en parlait beaucoup, on en parle moins maintenant, parce qu'elles se sont volatilisées. Ou bien ceux qui conduisaient les soucoupes volantes sont dans la contemplation. Ils ont été faire un petit voyage sur la Terre, ils ont vu que c'était pas très intéressant. Nos pauvres petits frères terrestres sont des imbéciles, ils ne comprennent rien du tout. On s'en va. Et maintenant, on contemple. Donc, on les laisse tranquilles. Pendant un moment, ils sont venus nous distraire. Et là, ce qui était très curieux, c'est qu'il n'y avait aucune expérience du toucher. Je connaissais quelqu'un qui était très pris par ça, et qui était persuadé qu'il y avait là quelque chose apocalyptique, qu'il y avait là quelque chose vraiment très intéressant, une visite extraordinaire. Alors je dis, puisque vous suivez ça avec beaucoup d'intérêt, vous me montrerez l'expérience du toucher. L'expérience du toucher, c'est la seule réaliste. Parce que on peut imaginer facilement entendre, on peut imaginer facilement sentir, on peut facilement imaginer, un peu plus difficilement, la vue. Les hallucinations les plus terribles, c'est celle du toucher. Parce que c'est le sens le plus réaliste. Alors, l'hallucination, c'est l'imagination qui s'empare de nos sensations et qui les fait tourner à vide. C'est le problème de l'hallucination. Vous croyez entendre des voix. On a entendu des voix, Dieu qui marchait. On a entendu ça. Voir, c'est déjà plus délicat. Mais ça existe. On voit. On voit le Christ portant sa croix. Et on en est persuadé qu'on l'a vu. Il y a une hallucination de vision. Les hallucinations du toucher sont les plus graves. Là, vraiment, c'est difficile de dépasser l'imaginaire et de retrouver le contact avec le réel. Parce que l'hallucination fait que l'imaginaire se met entre le réel et ma sensation. Et l'imaginaire gagne du terrain et arrive à faire que on ne voit plus. Alors, voyez, l'expérience la plus radicale pour le mouvement, c'est le toucher. Ça, c'est la plus radicale. Et vous pouvez distinguer à ce moment-là un mouvement artificiel et un mouvement naturel. Ça, c'est sûr. Et vous le distinguez du reste. Parce que certaines rapidités du mouvement vous montrent que ce n'est plus naturel. Que c'est artificiel. L'artificiel ne respecte pas l'harmonie de la nature. L'artificiel exploite. Et donc, formalise. Toute formalisation est une exploitation. On prend une partie, on en fait un tout. Toute hérésie est une exploitation. Une exploitation pour plan religieux. Toute secte est une exploitation. On prend un point qui est juste et puis on grossit imaginativement. Donc, il faut bien saisir cette expérience fondamentale du mouvement. Et cette expérience fondamentale du mouvement me dit qu'il y a quelque chose d'antérieur au mouvement, de plus radical au mouvement. Et ce quelque chose de plus radical au mouvement, je l'appelle matière. Et quand c'est vraiment quelque chose qui est radical, je l'appellerai nature matière. Oui, il faut découvrir cette induction. C'est une induction. Je passe du visible à l'invisible. Et c'est l'intelligence qui saisit ça. C'est l'intelligence qui, en analysant le mouvement, dit il y a quelque chose d'antérieur au mouvement qui permet de dire que le mouvement existe. Séparé de son sujet, le mouvement est formalisé. Et je ne vois plus son exister. L'exister du devenir, puisque le mouvement c'est le devenir. Le devenir existe par son sujet et n'existe pas par soi. C'est normal, puisque c'est quelque chose de tout à fait accidentel dans l'ordre de l'être, le devenir. C'est second, c'est pas premier. Mais le devenir n'existe que grâce à son sujet. Et c'est par là que j'arrive à distinguer le devenir artificiel et le devenir réel, naturel. C'est par le point de vue de l'inférence que je fais à l'égard de la matière. Un devenir artificiel vient de mon intelligence, vient de mon imagination. Ce mouvement existe indépendamment de la matière. Je peux m'en servir pour limer la matière, mais je le fais arriver avant. Et quand vous faites la cuisine et que vous suivez un instrument merveilleux pour faire des compotes, pour faire de la... pour faire n'importe quel jour, qu'il n'y a plus de morceaux et que tout, il n'y a plus de cuisses au bout d'un certain temps. Ça mousse. Ben, il y a des instruments qui marchent avant que vous l'appliquez. Ça bouge avant. Puis vous l'appliquez. Tandis que le mouvement naturel n'existe jamais avant la matière. Et il y a là un lieu de séparation qui fait que le mouvement artificiel existe pour soi, alors que le mouvement naturel n'existe jamais pour soi, il existe toujours en fonction de la matière. C'est là la grande distinction entre les deux. Parce que le mouvement artificiel provient de quoi? D'une idée que vous avez fabriqué ce mouvement artificiel. C'est vous qui l'avez fait. Il n'est pas naturel. Tandis que le mouvement naturel provient de la matière naturelle elle-même, qui, sous l'influence d'une autre matière, plus subtile, plus agissante, plus efficace, se laisse user. L'usure des articulations. Il y a quelque chose qui n'est plus tout à fait en ordre. Ça vous fait mal et puis ça s'use. Et on vous dira, oui, voyez, vous usez. Et petit à petit, l'usure sera telle que ça fera mal le chien. Ça, c'est naturel. Il y a une harmonie. Et le mouvement provient, le mouvement existe à partir de la matière. Toujours. Tandis que dans un mouvement artificiel, il existe par lui-même. C'est-à-dire qu'il existe par la pensée. C'est la pensée humaine qui invente le mouvement. très intéressant de voir génétiquement comment le mouvement a pu décoller d'une certaine matière, décoller de la matière à partir desquelles il est né. Parce qu'un mouvement naturel naît toujours de la matière, il est lié à la matière. Donc, première découverte, la nature matière. En même temps que je découvre la matière, je découvre la nature forme. Qu'il s'agisse d'une forme artificielle qui commande ce mouvement, qu'il s'agisse d'une forme naturelle qui est dans ce mouvement. Puisque tout mouvement implique un changement. De telle détermination, de telle qualité à telle autre qualité. Et donc, si tout mouvement présuppose une matière, tout mouvement implique au moins deux formes différentes. Deux formes contraires, l'une ne pouvant pas exister avec l'autre, et expliquant ce changement qui se fait. Vous avez donc, dès que vous faites l'expérience du mouvement, et du mouvement naturel, mais vous pouvez dire aussi du mouvement artificiel, vous voyez, le mouvement naturel met en présence de deux principes. Fondamentaux, la matière, la nature matière et la nature forme. Le mouvement artificiel de l'artiste met en présence, lui aussi, d'une matière. Je m'applique sur cette matière et je la change grâce au mouvement et par le mouvement. Et là encore, je passe d'une forme à une autre forme. Toujours. Je transforme une réalité. Et je la transforme plus vite qu'elle ne le ferait naturellement. Et c'est parce qu'il y a ce phénomène de rapidité qui vous fait comprendre qu'il y a quelque chose d'artificiel. Donc, la première chose que je découvre en philosophie de la nature, à partir de l'expérience du mouvement, que tout mouvement implique trois principes. L'analyse de ceux qui émuent implique sujet. Matière, capacité à être transformée. C'est ça la matière, cette capacité à être transformée. Toute expérience de ce qui est vu va impliquer un sujet de matière. Cette expérience du mouvement implique deux formes contraires, le passage de l'une à l'autre. Toujours. C'est ainsi que le mouvement se caractérise. Ce n'est pas le sujet qui caractérise le mouvement, mais c'est les deux formes. Il y a une altération. Ça change d'une qualité à une autre qualité. Il y a un changement de figure dans l'activité artistique. Je peux modifier. Et aujourd'hui, on fait ces transformations, vous savez bien, avec les photographies. On dit, ah, j'ai vu ça, voyez la photo. Et la photo est truquée. Il n'y a pas si longtemps, on a vu ces photographies très curieuses. Le Saint-Père priant, quelqu'un certifie qu'il a pris cette photographie, sans aucun truc artificiel. Et on aurait pu faire cette photo de façon artificielle. jamais distingué. Pas si commode quand c'est fait avec beaucoup d'art. On voit la Vierge Marie qui enveloppe le pape. Alors on peut mettre le pape, une photographie de la Vierge Marie, on colle dessus, puis on les voit. C'est le truc classique quand on est arrivé ici, à Chalons, avec il y avait des gens qui photographiaient tous les frères qui descendaient de train, du TGV ou de train. Ils les prenaient à photographier. Et on a su qu'il y avait derrière toute une mafia pour truquer les photos. Et par le fait même, faire un scandale. On dit, mais la photographie, vous voyez bien, c'est un témoin. Non, la photographie n'est pas un témoin aujourd'hui. C'est comme les cassettes. Vous pouvez truquer comme vous voulez. On avait fait une fois à Fribourg avec un père extrêmement, qui avait un langage extrêmement soigné. Alors on est arrivé à découper, vous avez plusieurs cassettes de lui découpées. Alors tout d'un coup, on lui dit, on a découvert une cassette. Ça devait être tout à fait dans votre jeune âge, avant votre conversion. Alors la voix y était, tout était truqué. Alors, il est devenu blême. J'ai jamais dit ça, j'ai jamais dit ça. On arrête pas. Vous voyez, c'est ça qui est terrible aujourd'hui. C'est qu'on n'arrive plus. Le point de vue artificiel est devenu tellement fort qu'on n'arrive plus à découvrir la nature, ce qui est naturel, et donc la vérité pratique. La vérité pratique, c'est ce qui a été fait réellement, et non pas ce que j'ai fabriqué. Ce que j'ai fabriqué dans telle ou telle intention. Et la falsification du langage, la falsification de la photographie. On peut falsifier et faire vivre dans un monde où on n'a plus de témoignage. Donc, les deux formes et la cause efficiente. La cause efficiente est ou artistique ou naturelle. L'eau qui coule. Phénomène d'érosion, elle coule d'une manière artificielle ou elle coule de façon naturelle. Ça ne change rien aux formes, c'est évident. Mais la cause efficiente est différente. Donc la diversité que je vais voir entre l'artificiel et le point de vue naturel, c'est du côté de la cause efficiente. Parce que du côté de la forme, l'érosion. Cette érosion est-elle faite de manière artificielle? Est-elle faite de façon naturelle? Si cette érosion est très ancienne avant que l'art s'impose, mais si on vit encore un troisième millénaire, au terme de ce troisième millénaire, on aura une peine énorme à distinguer ce qui est artificiel et ce qui est naturel. Tellement on vit un monde artificiel. Donc vous voyez, l'expérience que j'ai de ce qui est mieux, dès que j'analyse, donc dès que je me pose une question, qu'est-ce qui est antérieur à ce mouvement? Qu'est-ce qui est antérieur à ce mouvement? En quoi se fait ce mouvement? Le sujet, la matière. C'est la cause matérielle, la matière. Ce qui est capable de transformer. Quelle est la qualité de ce mouvement? Les deux formes, les deux contraires. D'où vient ce mouvement? Est-il artificiel? Est-il naturel? Est-ce que c'est un phénomène d'érosion naturelle ou artificielle? Je distingue donc tout de suite, à partir d'expérience du mouvement, qu'est l'expérience humaine la plus radicale, puisque tous mes sens coopèrent à cette expérience du mouvement. C'est pour ça que je prends l'expérience du mouvement. Ça, on ne peut pas nier un aveugle à l'expérience du mouvement, un sourd à l'expérience du mouvement, quelqu'un qui n'a aucun odorat l'essence du mouvement. Donc c'est l'expérience la plus radicale, l'expérience de tout homme. Dès que j'interroge, je vois apparaître la causalité matérielle, la causalité formelle, la causalité vivante. Voilà la découverte tout à fait première que je fais dans l'ordre spéculatif. Mais faisons attention, avant cet ordre spéculatif, qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y a eu la connaissance de l'activité. Philosophies pratiques sont antérieures à l'aspect